Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le 1er janvier, nous célébrons la circoncision selon la chair de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 8 jours après la naissance du Sauveur, ses parents, la Vierge Marie et Saint Joseph, le firent circoncire conformément à l'ordre donné par Dieu à Abraham au moment où il lui promet d'établir une alliance éternelle avec lui et toute sa descendance. Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire ta race après toi, quand ils auront 8 jours. Tous vos mâles seront circoncis de génération en génération, pouvons-nous lire dans la Genèse. Celui-là même qui, par amour des hommes, a accepté de revêtir la nature humaine qu'il a créée, a poussé la compassion jusqu'à assumer celle-ci dans son état déchu et corrompu. Par le retranchement de ce morceau de peau morte, symbole de la mortalité des hommes pécheurs, lui, le pur, le sans péché, acceptait de recevoir le signe de la réconciliation qu'en tant que Dieu et auteur de la loi, il avait lui-même institué. Dès son arrivée sur la terre, il se soumet humblement aux préceptes de la loi, montrant ainsi que les figures obscures trouvent en lui leur accomplissement. Les quelques gouttes de sang qu'il versa en ce jour étaient le prélude du sang qu'il allait bientôt verser sur la croix pour laver les péchés du monde et nous délivrer de notre condamnation. C'est pourquoi, avec la circoncision du Seigneur, c'est en fait le mystère complet de notre rédemption que nous commémorons. Aujourd'hui, par la circoncision du second Adam, prend fin la circoncision charnelle de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance et la Nouvelle et Véritable Alliance, marquée par une circoncision spirituelle inaugurée par son sang. Le baptême chrétien constitue cette véritable circoncision spirituelle, ce signe de l'appartenance au peuple nouveau, non plus par le retranchement d'un morceau de peau morte, mais par l'affranchissement de la mort elle-même, par la communion à la mort et à la résurrection vivifiante du Seigneur. Pour cette raison, Saint Paul et les apôtres se sont opposés avec énergie à ceux qui voulaient contraindre les convertis venus du paganisme à se faire circoncire. « C'est en lui, le Christ, dit-il, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme. Telle est la circoncision du Christ, enseveli avec lui lors du baptême. Vous en êtes aussi ressuscité avec lui parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité des morts », peut-on lire aux Colossiens. Et donc, plus besoin que le curé vienne avec son ciseau. En effet, dans le Christ Jésus, ni la circoncision, ni incirconcision, mais seulement la foi opérant dans la charité. En mettant un terme au précepte de l'Ancienne Alliance, par sa propre circoncision, le Christ nous appelait donc à la circoncision du cœur, au renouvellement spirituel qu'il avait annoncé par ses prophètes, notamment, je vous invite à relire Jérémie. C'est également sous forme de prophétie que Dieu avait ordonné à Abraham de pratiquer la circoncision de la chair une fois accomplis les 7 premiers jours de la vie de l'enfant, symbole de l'ensemble du déroulement du temps. Vous voyez la semaine de la création dans la Genèse. Le 8e jour figurait donc le passage au-delà du temps de ce monde de mort vers la vie éternelle qui nous a été ouvert par la résurrection du Seigneur le 8e jour de la semaine, lequel est également le premier et unique jour de la vie sans fin et sans changement. En étant circoncis le 8e jour après sa naissance, le Christ nous annonçait sa résurrection et notre délivrance finale. Conformément à l'usage on lui donna aussi en ce jour le nom que l'ange de Dieu avait indiqué à Joseph, Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Par ce seul nom était ainsi révélé sa mission sur la terre, ce pourquoi le Dieu éternel et créateur s'est fait homme. Le nom de Jésus résume et exprime tout le mystère de notre salut. Plus qu'un mot conventionnel, il rend mystérieusement présente la personne elle-même du Sauveur dans toute sa puissance triomphante. Ainsi, Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Comme le montrent d'innombrables exemples dans la Sainte Écriture, notamment les Actes des Apôtres et dans les Vies des Saints, c'est par le nom de Jésus invoqué avec foi que les miracles s'accomplissent, que les démons et les forces de la mort prennent la fuite comme brûlés par le feu et de sa divinité conformément à sa promesse. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est pourquoi nous, chrétiens, témoins de ce nom qui procure la vie, nous nous devons de tout faire au nom de Jésus. Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, rendant par lui grâce au Père, nous dit l'apôtre Galate. En répétant sans cesse, en toutes circonstances et à chaque respiration, la sainte prière, « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi, pauvre pécheur », ce sera la personne même de notre Seigneur qui habitera nos pensées, qui inspirera notre conduite, qui purifiera nos passions et qui, trouvant peu à peu une demeure stable dans notre cœur, fera alors resplendir en nous la lumière divine de sa face. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.